Bon mardi tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joe et OB. Cette semaine avec Joe Poulin, on a plusieurs sujets, des events à présenter, la FAE surtout, le fameux syndicat qu'on a tant aimé durant la grande manifestation des conventions collectives de l'hiver dernier. Ben là, ils s'en vont en Cour suprême pour contester la loi 21 avec notre cher ami Frédéric Bérard, on peut dire ami du podcast ou du moins qu'on connaît très bien dans Liane et Frank. Écoute, notre cher Jonathan, au niveau de d'enjeux de justice puis tout ce qui touche vraiment à ça, ça l'intéresse beaucoup. Fait qu'on va parler de ça beaucoup. Venez sur son petit grain de sel là-dessus. Et aussi, il voulait absolument nous parler de du power trip de plusieurs de nos élus municipaux. À un moment donné, c'est assez. Fait qu'on en parle ce matin en toute liberté. Salut Joe.
Salut!
Yes! Avant de commencer, regarde, tu me l'as demandé, mais ça me fait plaisir. Je fais un shout-out parce que tu as un événement qui s'en vient que... En fait, c'est une fête!
C'est un beau prétexte pour faire un événement puis se rassembler.
T'as le droit!
C'est vrai qu'il n'est pas parané. J'essaie tout le temps de trouver une occasion au début de l'été, tu sais, de... On vient de passer l'hiver, ça a été morose. Sans bosse, moi en plus, j'ai plein de monde qui ont eu le temps des sucs, etc. Puis on essaye un peu de trouver une occasion de se rassembler, de se réunir, etc. Donc là, j'ai annoncé un événement, donc samedi 1er juin à Saint-Victor-de-Beauce, de 1h à 4h là, dans l'après-midi. Un événement gratuit, ouvert à tous.
Un samedi en passant, pour ceux qui se poseraient la question, donc c'est la fin de semaine.
Oui, parce que moi aussi, je travaille. Là. Je ne ferai pas ça un jour de semaine. Mais c'est vraiment ouvert à tous. Là. Ça va être une activité familiale en musique. Donc, dans les prochains jours, je vais annoncer. Là, on est en train d'attacher les dernières ficelles. Donc, on a confirmé notre groupe de musique qui allait être présent. Évidemment, c'est des beaux serons. Vous comprendrez qu'on va être assez chauvin à ce niveau-là. Mais fait que je vais annoncer ça dans les premiers jours. C'est vraiment ouvert à tous. Ça se veut festif. Évidemment! Je vais avoir une tribune, ça va être une... C'est sûr que je ne pourrais pas m'épargner de parler un peu de politique aux gens qui vont se pointer là. Alors, ça se veut...
Tu nous teases une potentialité de quelque chose? On va avoir des surprises?
Mais écoute, il va y avoir beaucoup de surprises en événements, en invités. Puis écoute, il y aura peut-être des annonces qui vont se faire là, on ne le sait pas. Oh! Alors, restez à l'affût. Mais voilà, ça se veut festif, ça se veut rassembleur pour commencer l'été. Ouvert à tous en territoire Beauceron. Alors, voilà.
Écoute, c'est sûr que je vais y aller. En tout cas, à moins d'un méchant tadon d'horaire ou que je me ramasse quelque part d'autre ou que j'ai deux jambes. On me scie deux jambes, je dois quand même de m'y rendre pareil. Regarde, les auditeurs sont invités pour ceux qui s'intéressent et qui sont de la région. Également, regarde, on va parler du sujet principal. Je remets ça à l'écran ici rapidement. Loi sur la laïcité. La FAE en Cour suprême pour réclamer un encadrement de la clause dérogatoire. Écoute, pour être bien franc, j'ai vu la nouvelle passer hier matin. Je connais pas vraiment le dossier, autant que je savais que depuis que la loi 21 avait été adoptée via la clause dérogatoire par le gouvernement Legault il y a déjà plusieurs années, il y avait beaucoup de recours collectifs, il y avait eu... Je paraphrase des noms ici, je sais que ce n'est pas leur nom officiel, mais s'il y avait des regroupements beaucoup, je ne pourrais pas dire islamiques, mais de communautés culturelles de Montréal qui ont fait des recours que le fédéral appuyait et qui finançait d'ailleurs, c'était le plus drôle. Là, qu'on me dit qu'un syndicat québécois embarque dans patente, sérieusement, surtout un syndicat qui s'est fait reconnaître durant le dernier recours collectif, ou du moins la négociation pour la grève générale des fonctionnaires comme étant un des pires syndicats les plus broches à foin qu'il n'y a pas. Écoute, ça fait solution explosive un peu dans cette histoire-là.
Bien, si je peux me permettre juste peut-être de résumer un peu brièvement là, relativement à la loi 21, là, ça c'est la fameuse loi que le gouvernement Legault a adoptée pour interdire le port de signes religieux pour les employés en autorité. Moi, j'appelle ça autorité plus. Là. C'était le consensus Bouchard-Taylor, là, les policiers, les juges, les gardiens de prison. Puis, ils sont venus rajouter les enseignantes là-dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était quelque chose qui était, à première vue, discriminatoire. Puis ça ne prend pas un gros débat. Là. On s'entend, là, la liberté de religion, c'est tellement large que d'interdire à quelqu'un de porter un signe religieux, c'était discriminatoire à la base. Dans notre chat, ça peut arriver qu'on discrimine des fois puis que c'est sauvegardé, ce qu'on appelle en vertu de l'article premier, parce qu'on considère que c'est des limitations qui sont raisonnables dans une société libre et démocratique et tout ça. Mais le gouvernement, lui, n'a pas, même pas voulu prendre le risque de faire ce débat-là ou que ce soit contesté en cours, puis il a appliqué la clause dérogatoire, la clause nonobstant, pour dire « je suis conscient que ça brime des droits et libertés à la Charte, mais nonobstant ça, la loi va s'appliquer quand même ». C'est une disposition là, qui peut durer maximum 5 ans dans le temps avant d'être renouvelée. D'ailleurs, le gouvernement de la CAQ, dans leur deuxième mandat, ont renouvelé cette clause-là. Mm-hmm. Alors, évidemment, il y a eu des contestations devant les tribunaux. La Cour supérieure est venue dire que le gouvernement pouvait utiliser la clause dérogatoire. La Cour supérieure avait fait une exception pour les commissions scolaires là, anglophones, ouais, à Montréal. En vertu de l'article 23 de la Charte, peu importe. Et ça s'est rendu en Cour d'appel. La Cour d'appel a non seulement donné raison au gouvernement du Québec sur l'utilisation de la clause dérogatoire, mais a aussi mis de côté là, ce que la Cour supérieure est venue dire au niveau des commissions scolaires anglophones, francophones, puis dire non, effectivement, le gouvernement peut appliquer ça dans les commissions scolaires là, de langue anglaise. Alors là, évidemment, il y a des groupes qui portent ça devant la Cour suprême du Canada. C'était quand même assez prévisible, parce que je vous dirais que c'est quand même des sujets qui sont d'intérêt pour la Cour suprême, parce que l'utilisation de la clause dérogatoire, il n'y a pas juste le gouvernement du Québec hein, qui peut l'utiliser. Toutes les provinces peuvent le faire. D'ailleurs, Doug Ford l'avait fait. L'avait
ça, c'est fait, dans la Constitution, là.
Tout à fait. Alors moi, ça me fait toujours un peu rire quand les gens disent « Ah, c'est anticonstitutionnel ou c'est contre la Constitution? » Premièrement, quelqu'un qui dit ça, c'est quelqu'un qui n'a jamais lu la Constitution ou la Charte, parce que c'est dans le même document. Là. C'est tous les droits là, que vous me plaidez, qu'on plaide, la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté d'association, c'est dans le même document qui dit que les parlements peuvent, s'ils le mentionnent vraiment spécifiquement, là, on utilise la clause de dérogation, qui peuvent le faire. Alors, quand les gens disent que c'est anticonstitutionnel, clairement, ils ne passeraient pas leur premier examen là, les mid-term, comme on appelle, là, de leur cours de droit constitutionnel 1, là, ils pochent drette là. Alors là, il y a des groupes qui veulent aller en Cour suprême pour bon, tester l'eau si on veut. Premièrement, il faut que la Cour suprême accepte d'entendre la cause, qui n'est pas un automatisme, mais je vous dirais que c'est quand même un dossier d'intérêt. Et là, il y a des groupes qui se manifestent pour dire est-ce que j'interviens ou pas. Les premiers intéressés là-dedans, c'est les gouvernements, parce que quand on attaque la constitutionnalité des lois, les gouvernements sont appelés, les procureurs généraux, à défendre la constitutionnalité de leur loi. Alors là, tu as le gouvernement du Québec qui, lui, va défendre la légitimité de sa loi. Puis tu as probablement essentiellement le gouvernement fédéral qui va aller dire « bon, ben la Charte canadienne devrait invalider la loi, peu importe », ce qui est une lecture que je ne fais pas. Moi, je suis d'accord avec la décision de la Cour d'appel sur le terme du droit. Là. Puis quand on dit, moi que j'entends souvent des commentateurs dire l'utilisation préventive de la clause dérogatoire, ça n'existe pas en droit. Ça, c'est un nouveau concept là, qu'on nous a baragouiné dans les médias là, depuis la loi 21. Mais il y a l'utilisation de la clause dérogatoire ou il n'y a pas d'utilisation de la clause dérogatoire.
Ben,
le concept d'utilisation préventive, ça n'existe pas en droit.
Parce que c'est ça, parce qu'en fait, on va se le dire, c'est un droit que les provinces ont, c'est un pouvoir qu'ils peuvent utiliser. Parce que c'est ça, c'est pas une histoire que le Québec a genre créé une genre de loi spéciale homemade, puis ils servent de ça pour passer une autre loi qui est plus controversée. Ben non, c'est un processus qui ont droit, qui est inscrit dans la Constitution, qu'on l'ait signé ou pas, ça reste qu'on peut s'en servir.
Exact. Même,
puis Legault, c'est pas le premier à s'en servir. Robert Bourassa l'avait déjà fait dans les années 90 pour d'autres raisons aussi, la clause dérogatoire, donc c'est pas nouveau. C'est pas la première fois, mais là, c'est comme de ce que je peux voir avec la FAE ou l'article qui est présenté aujourd'hui. Mais là, c'est que, ouais, vous avez le droit, mais faudrait que ce soit pas tout le temps, là. Faudrait que ça soit. Tu sais, c'est comme, servez-vous-en, mais pas trop. Mais tu sais,
c'est ça. Alors là avant de parler du syndicat, là, mais sur le fond, ouais, sur la question de droit, ce qu'on demande, dans le fond, essentiellement à la Cour suprême, c'est de venir réécrire la Constitution. C'est de venir lui donner une interprétation qu'elle n'a jamais eue. C'est-à-dire, bon, ah, quelle balise avons-nous? Et je ne peux pas dire que la Cour suprême, malheureusement, a certaines tendances très interventionnistes. Hein. Il y en a qui vont parler de gouvernement des juges. Mais on l'a vu, tu sais, souvenez-vous dans les grèves qu'il y a eu récemment, les gens disaient sur toutes les tribunes, le gouvernement ne peut pas adopter de loi spéciale. Pourquoi? Parce qu'il y a une décision de la Cour suprême qui a été rendue il y a quelques années qui est venue constitutionnaliser le droit de grève. Moi, c'était, à mon avis, c'était une mauvaise décision.
Ben oui.
Alors, je dois respecter la décision du tribunal, mais pour moi, moi, j'étais d'accord avec les deux juges dissidents de l'époque. C'est-à-dire, le droit de s'associer est protégé par la Constitution. Mais le droit de grève, c'est un droit statutaire. C'est un droit qui est prévu dans les lois du travail, mais ce n'est pas un droit qui est prévu dans la Constitution, là. Alors, mais ils ont étendu ça jusque-là, ce qui fait en sorte que les gouvernements, maintenant, oh, là, ne peuvent plus adopter des lois spéciales, tu sais, assez rapidement dans le cadre d'un conflit de travail. Ils doivent vraiment, là, tu sais, démontrer qu'ils ont fait une négociation de bonne foi. Donc, c'est un espèce de test, dans le fond, que la Cour suprême est venue imposer en ayant une interprétation très libérale au sens interprétatif du terme de la liberté d'association. Alors, est-ce qu'on pourrait se ramasser avec quelque chose du genre? C'est-à-dire, la Constitution, là, elle dit nulle part, ah, oh, l'utilisation préventive, puis un test, puis peut-être testé devant les tribunaux, puis sinon, on revient. C'est pas ça. La Constitution a dit que les gouvernements peuvent sciemment, s'ils le mentionnent explicitement, s'exclure de dispositions. Et si on veut comprendre, il y en a qui disent, mais ça n'a pas de bon sens, ça viole les droits. Si on veut comprendre la logique démocratique derrière tout ça, c'est que c'est une clause qui est limitée dans le temps, maximum 5 ans. Mmh. Et qu'est-ce qu'il y a à toutes les 4-5 ans? Une élection. Alors, si un gouvernement utilise une clause dérogatoire de manière abusive, de manière totalement là, illégitime, bien, on se dit celui qui sera le mieux à même de sanctionner ce comportement-là, ce sera l'électeur à l'élection. Et si le gouvernement subséquent ne renouvelle pas la clause de dérogation, elle va mourir de sa belle mort. Alors, c'est ça l'espèce de boucle, si on veut, démocratique derrière l'utilisation de cette clause-là. Alors là, tu as des groupes qui, comme la FAE, eux, aimeraient ça. Parce qu'on l'a vu dans le cadre du droit de grève. Là. Eux autres sont bien contents que le gouvernement soit un petit peu ligoté et ne puisse pas avoir une loi spéciale rapidement. Ça leur donne tout qu'un rapport de force.
Ben oui.
Alors, c'est essentiellement ça qu'ils veulent aller plaider devant la Cour suprême avec. Au moins, je leur donne une chose. Ils ont pris un bon avocat. Ça, je vais leur donner. Ils ont pris vrai. Pardon, Frédéric Bérard, qui moi d'ailleurs m'a enseigné à l'Université de Montréal. Donc,
ah ouais, je savais pas ça.
Ouais, il m'a fait un cours à l'Université de Montréal.
Il était comment comme prof? Je fais une mini parenthèse ici, là, tant que tu ouvres un peu le. Parce que tu sais.
Il était excellent comme prof. Okay. Moi, en plus, j'ai été victime de corporatisme universitaire parce que j'ai fait mon bac en droit à l'Université d'Ottawa. Après, j'ai fait mon barreau du Québec. J'ai réussi mes examens du barreau du Québec. Mais après, j'ai pris la décision d'aller faire des études de deuxième cycle. J'ai fait mon Juris Doctor à l'Université de Montréal. Sauf que l'Université de Montréal m'a dit, « Ah, il y a deux cours que nous, on oblige au baccalauréat à nos étudiants que tu n'as pas fait quand tu étais à Ottawa. » Donc, c'était un cours de philosophie et un cours d'interprétation des lois qui, moi, c'était des cours optionnels. Puis, j'avais choisi d'autres cours en option. Mais, écoute, j'avais un bac en poche, j'avais réussi le barreau du Québec, mais l'Université de Montréal devait me faire faire ces deux cours-là pendant que j'étais au JD. Et mon cours d'interprétation des lois, c'est Frédéric Bérard qui me l'a donné. Je vous donne un scoop. Mon cours de philosophie, je suis allé chercher le plan de cours à l'examen de mi-session et à l'examen de fin d'année parce que c'était plate à mourir. Je n'avais pas besoin de ce cours-là. Mais le cours d'interprétation des lois, j'y suis allé systématiquement, pas parce que j'en avais nécessairement de besoin, mais parce que le cours était vraiment intéressant. Frédéric, c'est un très bon prof. Puis il y avait vraiment place à débat dans la classe. Puis peut-être qu'il se souviendrait de moi parce que j'avais des tendances déjà conservatrices à cette époque-là. Et c'était assez rare dans les classes à l'Université de Montréal.
Ah, surtout à Montréal. Là. Non, c'est ça. Il y a ses défauts, puis c'est qualité. Je pense pas que on l'a eu dans Liane et Frank. Puis autant, on n'est pas d'accord sur tout, là, dans sa tête. Autant qu'il dit qu'il y a de l'extrême droite partout, puis ça existe. Mais je serais curieux d'entendre c'est quoi sa définition d'extrême droite, parce que je pense qu'il y aurait de la misère à la définir, même pour un avocat constitutionnaliste comme lui. Là.
Mm-hmm. Mais tu sais, j'ai dit que ses cours étaient très intéressants, mais j'étais très souvent en désaccord avec lui, par contre.
Ben, c'est ça qui est le fun. C'est que c'est les profs qui acceptent le désaccord dans leur propre classe. Parce que quand c'est des pseudo-débats de point-virgule, puis que quand tu rentres vraiment dans le crunchy, ils disent « Ah oh non, là, pas de chicane. Ouais, » On est à l'université, calvaire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si c'est pas là qu'on le fait à discussion, ça arrivera pas après, là, tu sais.
Mais là-dessus, en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment place au débat. C'est pour ça que je dis, là, franchement, j'ai rien à redire là-dessus. Mais ceci étant, c'est le syndicat qui, puis je ne sais pas Frédéric, là, mais aux dernières nouvelles, il n'est pas encore aux étapes là, de juste faire du pro bono. Là. Fait qu'il n'a pas annoncé qu'il faisait ça pro bono. Donc, c'est quand même des coûts importants. Un recours en Cour suprême, là, je peux vous le dire, là, pour avoir travaillé dans des cabinets où il y avait des dossiers qui se rendaient en Cour suprême. Alors là, c'est les syndicats. Le syndicat qui, je le rappelle, était trop cheap et n'avait pas été capable de se prévoir un fonds de grève pour ses enseignants. Puis il y avait, moi, je me souviens des reportages où tu avais des enseignants, des enseignantes qui allaient dans des banques alimentaires parce qu'ils n'arrivaient pas à la fin de mois, parce que ceux qui étaient à FAE, ils ont fait la grève quand même. Ils ont manqué quelques cycles de paix. Là,
les districts FAE sont ceux que les enfants ont eu plus de pénalités par rapport au manque d'études. Contrairement à n'importe quelle autre centrale syndicale, il y en a qui ont eu beaucoup moins que d'autres. Puis là, c'est capoté, comme tu le dis, puis merci de le pointer, parce que je l'aurais dit anyway, que là, il n'y avait pas assez de cash pour se faire un fonds de grève, mais là, tout d'un coup, ils ont assez de cash pour partir en croisade en Cour suprême, Cour Lavoie 21. Hey, je serais membre de la FAE, tu dis, hey, on me prend-tu pour un cave? C'est quoi,
ben
là?
Oui.
On a trouvé une marmite d'or en dessous d'une souche, coudon, là, c'est quoi qui est arrivé, là?
Mais puis franchement, c'est abracadabra, parce que, souviens-toi, en plus, la FAE, là, qui ont adopté une stratégie syndicale qui a amené essentiellement leurs membres dans une précarité financière, parce que les profs qui étaient avec le Front commun, là, ils n'ont pas manqué autant de journées de paye, et pourtant, ils ont essentiellement les mêmes conventions collectives là, en bout de piste. Alors, stratégie syndicale très douteuse, pas de fonds de grève, donc gestion à discuter. Et souviens-toi, là, quand la FAE, l'exécutif syndical, dont la dame que tu montrais tantôt, Mme Hubert, à l'écran, ont recommandé l'entente, souviens-toi, là, ça a été quasiment 50-50. La moitié des associations ont refusé, ce qui est quand même un désaveu là, de l'exécutif syndical. Et là, aujourd'hui...
Elle est encore là.
Non seulement elle est encore là, mais à l'annonce qu'ils s'en vont en Cour suprême, qu'ils ont mandaté un avocat. Ben, j'entendais Frédéric Bérard sur les tribunes aujourd'hui, puis il se présentait comme l'avocat de la FAE. Donc, le mandat est donné. Et là, il y en a des journalistes qui ont posé des questions. Ils ont dit, mais vous tirez votre légitimité où? Et
ils ont osé dire... Ils n'ont pas eu de mandat officiel de leurs membres. Il n'y a pas eu un vote pour dire on part en croisade, en Cour suprême, whatever. Là. C'est arrivé...
Ben, leur explication, c'est qu'ils vont se réfugier derrière un vote qu'il y avait eu, si ma mémoire est bonne, en 2013, quand Bernard Drainville avait présenté la Charte des valeurs québécoises. La FAE avait tenu un vote auprès de ses membres et pour savoir s'ils étaient pour ou contre cette charte-là. Et les membres de la FAE avaient voté en majorité contre la charte des valeurs.
Il y a 11 ans.
Alors, c'est ça, là. Et puis, elle est allée dire ça. J'ai écouté aujourd'hui une entrevue avec Mario Dumont. Elle est allée dire ça, elle, là, bien sérieusement, le plus sérieusement du monde. Alors, moi, j'ai aimé le commentaire de Bernard Drainville aujourd'hui qui a dit dans un scrum quelconque. Moi, si j'étais membre de la FAE aujourd'hui, je poserais de sérieuses questions sur l'utilisation de mes cotisations syndicales.
J'espère.
À la FAE. Parce que là, c'est abusif. On jurerait que tu as des gens qui ont pris carrément ça en otage. Puis, tu sais, je le rappelle, là, le syndicalisme au Québec et au Canada, c'est ce qu'on appelle la formule RAND. Donc, dès que ton unité et donc ton corps là, ou dans l'unité de travail dans laquelle tu es est accrédité, tu ne peux pas te retirer. Là. C'est ça, cotisation obligatoire.
Et obligé. Enfin,
la formule RAND qu'on appelle. Alors, le monde, même s'il chiale, le syndicat, lui, il y a une ponction automatique et obligatoire qui se prend sur le salaire de ses membres et ils font des choses comme ça.
Mais pourquoi, excuse-moi de te couper, Joe, mais pourquoi maintenant? Puis pourquoi une centrale syndicale, tu me dis, OK, ils ont un vote, ils ont 11 ans, déjà en partant, c'est louche en calvaire, va voter sur du sable, mais pourquoi? Quel est l'avantage? À part pour dire qu'on veut avoir raison, puis on veut gagner en coupe, on veut avoir l'air, on veut se pomper le torse, quel est le plus-value qu'une centrale syndicale qui a déjà une réputation merdique suite aux dernières négociations, que semble-t-il n'avait plus de cash, mais là, qui en ont pour X raisons, s'en vont en croisade, qui risquent de coûter les yeux de la tête. pour se battre la loi 21. Parce qu'à date, dernière nouvelle, tu sais, je veux pas être... En tout cas, historiquement et politiquement parlant, les centrales syndicales ont toujours été proches, tu sais, mettons, des partis plus comme le Parti québécois, des trucs comme ça, tu sais, plus le... Sans vouloir faire... PD, ouais. C'est ça, sans vouloir faire... Sans vouloir être préjoratif, tu sais, un peu plus des proches des caribous, entre guillemets. Fait que, tu sais, à part, ça serait un mandat clair de leurs membres et un mandat récent, je tiens à le préciser. Je vois pas c'est quoi... quelle mouche les a piqués pour qu'ils se sont levés un matin et qu'ils se disent « OK, en 2024, on sort ça du chapeau out of nowhere, puis on sort un vieux discours d'il y a 11 ans pour partir en croisade pour ça. »
En fait, sur le volet politique, moi, je pense que ton analyse est bonne, mais 15 ans en retard. C'est-à-dire que je pense que maintenant, les syndicats sont beaucoup plus proches de Québec solidaire et du NPD, qui sont beaucoup plus multiculturalistes à toute sauce. Puis, tu sais, si tu regardes Québec solidaire, puis les membres de Québec solidaire sont contre essentiellement la loi 21. Ouais, c'est sûr. Alors, je pense qu'on est plus dans cette frange-là syndicale. Mais encore là, pour moi, je fais une énorme différence entre les syndicats ou l'exécutif syndical, puis les syndiqués. Nombreux syndiqués que j'ai rencontrés, absolument, moi, durant les manifestations. C'est sûr qu'ils s'embossent, on était le front commun. Essentiellement, c'était pas des gens de toute la FAE, mais quand même, c'est pas... je fais vraiment une grosse distinction entre les deux, parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu que s'il n'y a pas unanimité, mais presque, des profs de la FAE qui sont en maudit.
Durant la grève étudiante, la CSN finançait la classe, puis les carrés rouges, puis les syndiqués de la CSN n'ont jamais eu de leur avis là-dessus. Fait que ça date pas d'hier. Puis regarde, t'as absolument raison. Durant la pandémie, ben, pendant que je travaillais dans une usine de métallurgie dans mon coin de Montmagny, il y a le gars le plus conservateur de l'usine, puis le plus PCQ, c'était le représentant syndical. Tu sais, pour te dire à quel point que c'est ça. Il y a une dystopie entre les hautes instances. C'est pour ça que on clarifie souvent le discours, c'est pas être anti-syndicaliste, c'est anti-corporatiste et, j'allais dire, haute instance syndicale, disons, parce qu'on vraiment une claire, ben, on le voit là, Magali Picard qui a dit que la raison pourquoi c'est les membres de la FTQ, votre PCQ, parce qu'ils sont tellement gros durs, ils ont tellement des bonnes conditions qu'ils veulent les baisses d'impôts. En gros, elle les prend quasiment pour des appels, là, je paraphrase ici, là. Mais c'est ça, on voit qu'il y a vraiment deux univers complètement différents entre les membres et justement les grosses bottes de ces centrales syndicales-là.
Magali Picard, il faut quand même rappeler que c'était elle qui avait jugé que c'était intelligent de s'en aller à Dubaï avec une grosse délégation de la FTQ pendant qu'il y avait des grèves tournantes ici au Québec. Ouais. Donc, en termes de jugement... On parle de ces gens-là. Tu sais, en Beauce, il y a une expression qu'on dit qu'il y a des gens qui ont été bercés trop proche du mur quand ils étaient petits. Là, ben, en termes de jugement, c'est pas mal ça. Là.
Absolument. Écoute, je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter par rapport à ce dossier-là. Je sais que tu voulais parler en terminant.
Oui.
Tu m'as parlé, quand je t'ai demandé ton sujet, qu'est-ce que tu veux qu'on jase à part la forêt? Je veux parler des power trips municipales. Fait que, pas plus que ça, je te laisse aller.
C'est parce que moi, je trouve que il y en a qui se demandent des fois, c'est quoi un des symptômes d'avoir des oppositions aussi faibles à Québec en ce moment, que je parle du Parti libéral ou de la Québec solidaire ou blablabla. Ben, c'est qu'en ce moment, ceux qui s'instituent un peu en opposition contre le gouvernement, c'est les municipalités, hein, qui prennent un peu le champ libre là, que les oppositions à Québec un peu à terre dans les sondages laissent. Et ça donne des séquences abracadabrantes comme on a vu dans les dernières semaines. Puis moi, il y en a deux qui m'ont quand même assez marqué dans les dernières semaines. Il y a tout ce qu'il y a par rapport au transport en commun qu'on a vu dans les dernières semaines. Puis l'exemple qui s'est passé aux îles de la Madeleine avec la fameuse taxe archipel là, ou le passeport archipel. Pour moi, c'est deux exemples de champs libres qu'on a laissés. Puis que là, il y a des dérives qui n'ont pas de maudit bon sens, tant une au niveau des finances publiques, qui sont les déficits accumulés dans les sociétés de transport, puis Québec, les municipalités disent « Ben là, venez éponger nos déficits. » Puis tu as de l'autre côté, puis d'ailleurs, je tiens à dire que, souvenez-vous, le gouvernement de la CAQ a adopté un projet de loi pour permettre aux municipalités d'augmenter la taxation, notamment sur les immatriculations, hein? Alors là, quand tu as le gouvernement qui dit, ben là, les municipalités, c'est des quêteux, puis des ci, puis des ça, c'est un peu hypocrite parce qu'il faut se souvenir que récemment, ils leur ont donné un très gros pouvoir de taxation qu'il ne faudrait pas se surprendre, ils vont l'utiliser.
Ben, c'est ça, tu sais, c'est comme. Tu as donné le permis aux colporteurs, ils ne seront pas surpris qu'ils colportent après. Ben, c'est carrément ça. Puis tu as absolument raison. Puis on voit clairement, puis ça date pas d'hier, là, déjà qu'ils ont essayé de prendre le gouvernement en otage, les classiques, là, tu sais, Bruno Marchand, le maire de Laval, Valérie Plante, Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil. Si vous faites pas ça, là, on va mettre le montant maximum sur les immatriculations. C'est quasiment 200 quelques piastres pour ces citoyens. On prend littéralement les citoyens qui sont censés représenter puis qu'on parle en leur nom en otage sans aucunement qu'on lui pose la question. Puis l'exemple, on en a parlé avec la semaine passée avec Samuel dans le débrief ici de Yann et Frank, l'histoire des îles. Ça fait le tour du Québec, puis j'écoutais, il était le maire, M. Valiquette, je crois son nom de famille, le maire des îles, était en entrevue à TVA en fin de semaine. Disons que son ton un peu condescendant qu'on a vu dans les dites vidéos depuis une semaine et demie semble se confirmer parce qu'il y avait pas mal le même ton avec la journaliste de TVA, puis c'est... On voit une certaine arrogance de plus en plus. Là,
Je me permets, ce maire-là là, que vous avez entendu, là, qui ne prêche pas par excès de modestie et fait quand même assez arrogant, là, pensez-vous que ce maire-là, là, lui, là, il n'a pas hâte là, du projet de loi de la ministre de la Forêt qui va permettre aux municipalités là, d'intenter des poursuites et des amendes dès que vous êtes un peu,
vous êtes un peu trop dur
avec un élu? Hein? Pensez-vous que lui qui n'en distribuera pas des amendes au conseil municipal? Parce que moi, j'ai écouté des extraits, il ridiculise ou il fait un peu fermer la trappe à tout le monde qui se présente au micro qui n'est pas d'accord avec sa mesure. Alors imaginez là, donner un pouvoir additionnel entre les mains de cette personne-là. Moi, j'étais inquiet du projet de loi, puis là, on a des exemples où on se dit « ouais, il y a dans des municipalités que ça va être assez inquiétant, merci ».
Ah non, puis écoute, les deux dames qui ont passé, qu'on a vu dans la vidéo montage du conseil de ville aux îles, premièrement, si ça c'est de l'incivilité, il m'a dit, comme j'ai déjà dit, vous avez la peau rose en calvaire, là. Tu sais, oui, il y a eu du rétorquage, il y a eu du back and forth, mais il n'y a eu aucune attaque ad nominem, il n'y a pas eu d'attaque personnelle, il n'y a pas eu de sacrage. Oui, le ton monté, oui, ils sont interrompus, mais that's it. Excusez-moi, exact. Mais c'est tant mieux. Puis là, c'est comme, ah non, c'est trop, là, je vais vous couper la parole, puis tout. Sérieusement, quand du caricatural, dans une des chroniques que j'ai faites avec Luce Dano, quand on parlait de l'histoire de Sainte-Pétronille et tout ce qui se passe dans cette municipalité un peu spéciale-là, hey, c'était quasiment rendu une caricature. Il interviewait le maire après le conseil municipal, puis littéralement, parce qu'ils ont déjà commencé, ils ont placardé plein d'affiches du gouvernement du Québec, mettons, soyez respectueux envers vos élus, puis des affaires de même. T'es comme, c'est rendu une vraie joke. Je suis désolé, exact. Là. Ça fait quasiment penser durant la dernière campagne électorale. T'en souviens, là, tu sais, avec Sylvain Lévesque, là, nous sommes des êtres humains, les pancartes vandalisées, puis c'était comme... Ça fait un peu stagé, là. Je veux pas être méchant, là, en tout cas.
Oui, puis ça va donner des... Tu sais, on a des élus qui sont de plus en plus déconnectés des citoyens, qui font plus essentiellement d'activités populaires parce que ils se font apostropher ou ils disent qu'ils se font apostropher. Moi, au contraire, je trouve que c'est un... Des exceptions puis des gens un peu bizarres, là, il va toujours en avoir. Mais quand c'est rendu que systématiquement, dans ta circonscription, là, si tu as été élu, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont coché ton nom. Là. Alors, si c'est rendu même là, tu as de la misère à aller faire des activités publiques sans te faire apostropher ou te faire dire des petits commentaires désagréables. Là. Si on s'entend, là, je ne suis pas en train de parler de menaces de mort. Là, ou ça se peut que le député qui se promène en bas, ça se peut qu'il se fasse dire qu'il est une plante verte une fois de temps en temps. Tu sais, puis ça peut blesser celui qui le reçoit, mais à un moment donné, c'est peut-être l'image publique que les gens retiennent.
Ben oui, il a fait une tribune à tous les jours. Il est en arrière de Yann quand on fait le show. Fait que...
Ben oui, j'ai vu l'autre fois. Je ne suis pas une plante verte. Mais écoute, moi, j'ai vu cette fin de semaine, il nous représentait fièrement sur le bras du ministère de la Culture au gala Dynastie à Montréal. Alors, beaucoup de retombées pour les Beauceronnes et les Beaucerons.
Ah, c'est incroyable.
Alors, tu sais, c'est le genre de choses où que les élus sont déconnectés, se font apostropher. Fait que moi, ce que je dis aux gens, c'est
plus spécial.
Les gens qui vous ressemblent.
Ce qui est plus spécial, Jonathan, peut-être que c'est un peu moins pire en Beauce, mais c'est rendu que c'est même plus... C'est tout le palier municipal et ce qui l'entoure. On parle déjà des organismes communautaires qui sont de plus en plus militants, peut-être moins en région, mais plus en ville. Même, je vais le dire, les chambres de commerce. T'sais, peut-être pas dans toutes les places, mais excusez-moi, mais la Chambre de commerce de Québec ou plusieurs, c'est beaucoup. Ils sont pro-tramway à côté, puis le mouvement des jardins, puis de ci, de ça. Ouais, mais disons que ça a plus l'air d'être des, justement, des entrepreneurs qui ont le temps de militer, là, tu sais, on va dire ça comme ça, là. Je dis pas qu'ils ont pas leur place, ces organismes-là. C'est juste que je vois vraiment une tendance de, comme je te dis, vraiment une dystopie entre la volonté populaire et justement les élus municipaux. Également, plusieurs de ces organismes-là qui sont censés représenter différents groupes de la société, que j'ai l'impression que c'est ça, ils sont fait boucheter au vaccin sur le militantisme parce que, on dirait que la séparation entre divers, en tout cas, je crois que c'est du cas par cas, tout dépendant des régions, mais j'ai l'impression que de plus en plus, tu sais, même l'UMQ, là, tu sais, j'écoutais M. Danfousse, le président de l'UMQ la semaine passée. Puis
mais je suis pas sûr de suivre. Ce que tu veux dire, c'est qu'ils sont dans le discours du gouvernement ou ils sont pas dans le discours du gouvernement?
Ben, ils sont dans le discours, même un peu comme les maires, là, tu sais, un peu comme la même tangente comme Bruno Marchand, puis mettons le maire de Laval, tu sais, en mode décroissance, puis de ci, de ça, puis ah, les élus, faut les écouter, puis que les citoyens, ça, tu sais, faut faire de la pédagogie. J'écoutais ça, là, tu sais, je paraphrase ici, mais M. Danfousse, le gars de l'UMQ, il parlait de décarboner les villes, là, faut expliquer, faut faire de la pédagogie aux citoyens, parce que ils sont tellement en cave, ils ne comprennent pas, faut les expliquer. T'sais. C'est pas comme s'il faudrait représenter leur volonté puis fermer nos yeux après. On est juste en démocratie. Hein, je dis ça, comme ça,
corrige-moi si je me trompe, mais M. Danfousse, c'est le maire de la petite municipalité de Varennes qui gagne plus cher que le premier ministre du Québec, c'est ça?
Oui, parce que justement, tous les entrepôts d'Amazon puis le centre de données sont tous dans cette municipalité. Oui.
Ouais. Ah, OK. Alors, tu sais, tu as des gens qui sont là pour se servir avant de servir. Là. Alors, moi, c'est les ça. Leçons de ces gens-là, j'en prends pas trop, puis j'en laisse. Là. Mais je suis d'accord avec toi. Tu sais, moi, je trouve des fois que, puis je te donne un exemple qui m'a quand même frappé. L'autre semaine, j'étais du côté de Sainte-Marie-de-Beauce où il y a eu une manifestation des agriculteurs. Et je te partage mon impression, mais j'ai vraiment l'impression qu'on fait exprès, notamment avec la complicité de l'UPA, je vais le dire sans me faire des amis, mais que ça reste petit, que ça lève pas trop, que ça dérange pas trop. Écoute, t'as des hommes là-dedans et des femmes là, qui ont scrappé une journée d'ouvrage, qui sont venus avec de la machinerie. On les a fait faire une petite parade, là, arrangée. Puis après ça, on s'est présenté devant le bureau du député et je vous le dis sans l'inventer, il y avait plein de monde pour le demander. Le représentant de l'UPA monte sur le pick-up. D'ailleurs, un beau pick-up de l'année flambant neuf. Je trouve que sur le message, j'aurais pu prendre un vieux pick-up, mais bon, ça, c'est une autre chose.
Avec un peu de bois de ses barges pour que ça fasse, ça, que ça fitte.
C'est, en tout cas. Puis là, le député, puis d'ailleurs, je salue le Luc Provençal qui est quand même venu voir les manifestants, notamment de son bureau. Là. Mais le gars de l'UPA, merci de nous recevoir à vos bureaux. OK, fait que. Moi, je suis un agriculteur, j'avais perdu ma journée d'ouvrage avec ma machinerie pendant que c'est la saison de l'épandage puis les semences qui commencent. Puis là, c'était la fin en plus des sucres parce que souvent, il y en a qui sont dans les cabanes sucre puis tout, etc. On y arrive là, puis ils entendent les représentants de l'UPA quasiment lichés de l'arrière des députés, puis merci de nous recevoir. Moi, j'étais fâché, puis je suis pas un agriculteur. Alors, tu sais, c'est là que je me dis.
C'est ça. C'est
pas sûr que les agriculteurs se sentent bien représentés dans ce débat-là.
Ils veulent un mouvement populaire, mais encapsulé, tu sais, contrôlable, encadré. Ils veulent pas un genre de convoi des camionneurs, mais des agriculteurs, finalement. Là,
devant le Parlement, Québec, va bloquer la ville.
on va bourrer les murs de la Sénat avec du purin, comme ils ont fait
en Europe. Mais je veux dire, tu sais, une manifestation, puis d'ailleurs, les manifestations des agriculteurs ont tous été très pacifiques, là. Il y a des escortes de la Sûreté du Québec. Je veux dire, tu sais, c'est planifié, encadré. Il n'y a pas eu de débordement. Mais une manifestation, ça vient quand même avec du dérangement. Arrêtez de nous perdre, si dans les municipalités, puis de faire exprès de faire ça. Tu sais, je donne un exemple. Ils en ont fait une au centre du Québec en même temps d'une grosse expo. Je suis comme, ouais, mais il y en a plein qui sont à l'expo en ce moment. Tu sais, il y avait une expo laitier, puis... J'ai vraiment l'impression que on veut pas que ça lève ce mouvement-là. Puis là, dans les prochaines semaines, oubliez ça. Les agriculteurs sont dans les champs, là. Exactement.
C'est ça, ils veulent garder le contrôle. C'est ça le Québec. C'est les centrales. C'est autant l'UPA que le Collège des médecins, que les centrales syndicales. On aime ça, la ferveur populaire, jusqu'à temps qu'on n'ait plus le contrôle. Là, on est contre ça. Parce que bien sûr. On reste des corporations, on veut garder le pouvoir et le monopole sur le mouvement. Il ne faudrait quand même pas que les citoyens ose s'exprimer sans le filtre syndical.
Ben, on l'a vu avec la pandémie. On a découvert un Québécois qui aimait se faire contrôler.
Ouais.
Alors, heureusement là-dessus, j'ai une petite lueur d'espoir vivant dans le village gaulois du Québec. Là, mais disons que ça manque un peu de robustesse. Puis moi, me faire répondre, oui, mais c'est pas de la faute des élus, c'est de la faute des fonctionnaires, ce qu'un représentant de l'UPA m'a dit. Écoute, je suis d'accord que les fonctionnaires ont beaucoup de pouvoir, mais si c'est le cas, c'est parce que les élus le laissent avoir du pouvoir. Exactement. Les règlements, les projets de loi, ultimement, là, c'est pas les fonctionnaires qui se lèvent et qui votent dessus, c'est les élus.
Alors, on est élu du monde d'abord.
Exactement. Exactement. Alors, il y a un principe qui est l'imputabilité. Et quand les gens souffrent, puis ont de la misère, puis en arrachent, ben, je pense que les premiers qui doivent subir la critique, c'est les élus, parce qu'ils ont une part de responsabilité là-dedans.
Exactement. Écoute, Joe, merci beaucoup. Toujours un plaisir.
Ça fait plaisir.
On se revoit dans deux semaines. Puis un autre shout-out, 1er juin, Saint-Victor, partie de fête de Jonathan.
Restez à l'affût dans les prochains jours sur ma page. On va annoncer là, la musique. On va dévoiler là, les gens.
Tu vas nous faire comme Justin Trudeau, tu vas nous faire un striptease.
Ça va être de l'effeuillage, mais je vous promets, ça ne vient pas avec une facture ni une dette. C'est un événement 100% gratuit. Alors,
parfait. Voilà. Allez vous lire ça sur la page Facebook de Jonathan, puis abonnez-vous à l'événement qui est disponible. Écoute, merci tout le monde. Passez une bonne journée, puis on se revoit demain pour un autre épisode. Bye. Ciao. Bye.